Voici les titres du journal.
C'est la rentrée pour les étudiants des hautes écoles de santé de Lausanne. Et ils seront plus nombreux que l'année dernière. Les HES ont enregistré une hausse des admissions de 33%. Les explications dans ce journal. La semaine du goût se déroule en ce moment à Montet. Elle durera jusqu'à samedi. On pourra notamment y déguster la fameuse croûte aux champignons du groupe mycologique Montaisan. Christian Levrat va quitter la Berne fédérale à la fin du mois. Le Parlement perd ainsi son élu le plus influent selon les médias alémaniques. Entretien fleuve avec notre correspondant à Berne, Serge Jubin. En course à pied, un Néerlandais et une Neuchâteloise ont remporté samedi le 50e Trail des Dents du Midi. Dans les rangs chablaisiens, il a fallu se contenter des places d'honneur lors de cette édition anniversaire.
Et pour la météo, le ciel sera souvent nuageux cet après-midi avec quelques averses éparses en pleine, plus fréquentes sur les sommets. Pour demain, Météo Suisse nous annonce un temps assez ensoleillé. La météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Joël Espier. Bonjour Joël.
Bonjour Axel, bonjour à tous. Les hautes écoles de santé lausannoises ont la cote. Elles ont enregistré une hausse des admissions de plus de 30% entre la haute école de santé Vaud et l'école La Source. Une augmentation significative, notamment dans la filière soins infirmiers, où elle est de 30% à la SAV et de 37% à La Source. Pour le directeur de cette dernière, Jacques Chapuis, il y a probablement eu, entre autres, un effet pandémie.
Vraisemblablement qu'on peut trouver de multiples explications. En tout cas, nos écoles n'ont pas redoublé d'efforts de marketing, donc il faut penser que vraisemblablement la pandémie, la mise en lumière des infirmières et des infirmiers de leur rôle, je dirais primordial dans le système de santé, a permis certainement aux jeunes de se rendre compte que c'est une profession non seulement passionnante, mais une profession d'avenir et qui ne peut que croître en fait.
Mais attention à la croissance trop rapide. En effet, les hautes écoles de santé lausannoises restent lucides. La question du manque de place se posera si les chiffres continuent d'augmenter ces prochaines années. Écoutez la directrice de l'ESSAV, Carole Wieser.
Oui, ça met des limites et puis on peut déjà le constater. Donc nous avons deux bachelors qui sont régulés. Donc ça signifie qu'ils ont un nombre restreint de places pour les étudiantes et les étudiants informés. Là, je parle plus particulièrement du bachelor en physiothérapie et puis du bachelor de la filière sage-femme. Et puis dans ces deux filières, nous avons déjà une limitation qui est uniquement posée en raison de la limitation des stages. La formation hautes écoles est une formation qui est fortement ancrée dans la pratique, donc les places à disposition sont bien entendu régulées par rapport aux dispositions que nous avons des domaines pratiques à pouvoir nous recevoir.
Du côté de la Haute École de Santé du Valais, une augmentation a également été notée, mais en comparaison avec les chiffres des dernières années et surtout des désistements, la hausse reste minime, un sujet réalisé par Léa Journaux. 7 gravières vaudoises vont ouvrir leurs portes au public samedi. Cette initiative de l'association vaudoise des graviers et déchets a pour objectif de faire découvrir la richesse du monde du minerai en Suisse, ainsi que la diversité de ce secteur économique en pleine transition écologique. Les visiteurs auront l'occasion de suivre des sentiers didactiques et interactifs. D'autres animations et des petites collations seront aussi proposées par les exploitants. La VGD attend notamment le public à la carrière d'Arvel à Villeneuve. Un véhicule a pris feu ce matin sur l'autoroute entre Vevey et Lausanne. Vers 7h40, plusieurs témoins signalaient que le conducteur d'une voiture de livraison s'était arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence entre Chèvre et l'aire de Lavaux, alors que son véhicule était la proie des flammes. Malgré l'intervention rapide des pompiers, le véhicule a été entièrement détruit, probablement à la suite d'un problème technique. Les occupants n'ont en revanche pas été blessés. Pour les besoins de l'intervention, la voie de droite de la 9 a été fermée à la circulation durant près de 2 heures.
Des bolets, des chanterelles et des croûtes aux champignons au programme de la semaine du goût à Montet.
L'Office du tourisme régale ses visiteurs pour cette nouvelle édition. Le programme riche et varié vous emmènera dans plusieurs coins de la cité chablaisienne, de la place Tübingen aux Islettes en passant par la place de l'Hôtel de Ville. Il ne manquait plus qu'une escapade en forêt pour une balade complète. Et c'est le groupe mycologique Montaisan qui vous y emmènera samedi grâce à son exposition Forêt-Valais. Des champignons, il en existe de toutes sortes, pas tous comme loin de là, c'est ce que explique Jackie Blanc. Il est co-président du groupe mycologique Montaisan au micro de Guillaume Abbé.
Vous avez des milliers d'espèces de champignons et il y en a peut-être, je dirais, moins d'une centaine qui sont comestibles. Donc c'est un faible pourcentage. La comestibilité des champignons est un phénomène qui est difficile à expliquer clairement. Mais il y a des choses dont il faut se souvenir. Il y a des champignons qui sont de bons comestibles. vous connaissez tous, bolets, chanterelles, etc., qui ont non seulement du goût, mais aussi une texture sympathique. Vous avez une quantité folle de champignons qui ne sont pas toxiques, mais qui n'amènent rien. Et ensuite, vous avez une toute petite quantité de champignons qui sont toxiques, voire mortels. Mais au milieu, il y a un grand volume de champignons qui, en soi, n'ont pas d'intérêt majeur, à part la beauté, à part le plaisir de les retrouver. Et ce qui fait qu'effectivement, au niveau des champignons comestibles, il n'y a pas un grand nombre, mais je pense qu'il peut y avoir moins d'une centaine d'espèces qui sont vraiment de bons comestibles.
Où est-ce qu'on peut aller cueillir ces champignons, justement? Vous avez deux, trois petits coins à nous donner?
Dans cette région du Chablais, la chance, c'est qu'on a une pluviosité qui est le double, par exemple, de celle du Valais central. D'un autre côté, on a des expositions qui sont un peu différentes. Dans le Valais central, vous avez une exposition sud, une exposition nord, très souvent. Ici, vous avez quand même une autre exposition entre la zone qui est au-dessus de Montée vers Chouet, la zone qui est au fond de la vallée de Champéry vers Barmes, et vous avez les zones Champoussin, ensuite la zone de Morgin, la zone de Châtel, donc de Chalet-Neuf. Toutes ces zones-là ont des expositions différentes, ont des pluviosités pas tout à fait les mêmes, ce qui fait qu'on a la chance d'avoir des champignons qui poussent de manière un peu plus constante. Et si jamais vous avez de la peine, vous pouvez aller du côté de Longrain, côté vaudois, ou du côté du Col des Mosses.
Et cela tombe bien, parce que la saison des champignons est ouverte. C'est donc à Montais samedi que le groupe mycologique Montaisan donne rendez-vous aux amateurs de champignons. Vous pourrez déguster leur fameuse croûte. La vaccination à la maison de santé du Haut-Lac à Vouvry va reprendre de plus belle cette semaine. Dès demain, les plus de 16 ans pourront recevoir des injections. Les mardis et mercredis après-midi, uniquement sur rendez-vous. C'est au 024 482 00 90. Des soirées sans rendez-vous sont également mises sur pied. La prochaine, ce sera ce vendredi de 17h à 19h. Plus d'infos sur le site www.mshl.ch. Organisée par l'association Aqua Diving, l'opération Genève Action Lac Propre a permis de sortir 1890 kg de déchets du lac. Près de 200 bénévoles ont œuvré samedi et dimanche malgré une météo capricieuse. Cette récolte de la honte a été présentée hier en fin de journée devant les bains des Paquis. Dans ce triste butin, on trouve les classiques bouteilles en pète, canettes en aluminium, mégots et depuis un an et demi, des masques chirurgicaux. Mais d'autres objets insolites ont également été extraits du Léman. Un appareil photo pro, une chaussure de ski, des caddies de supermarché et même un coffre-fort ainsi que des munitions. Ces deux derniers ont été remis à la police. Cette 29e édition du nettoyage du lac a eu lieu en même temps que le Clean-up Day qui a mobilisé près de 45 000 personnes en Suisse et un peu plus de 600 actions. À partir d'aujourd'hui, les personnes non vaccinées et non guéries du Covid-19 devront présenter un test négatif pour entrer en Suisse, et quel que soit le moyen de transport ou le pays de provenance. Un formulaire d'entrée devra également être rempli. Certaines exceptions sont prévues, notamment pour les frontaliers. Un deuxième test devra être effectué après 4 à 7 jours. Comme depuis le début de la crise, les tests rapides antigéniques ou PCR sont acceptés. Les autres tests ne sont cependant pas valables.
Le Parlement fédéral va perdre à la fin du mois son élu le plus influent.
Un titre accordé par les médias alémaniques au socialiste Christian Levra, qui votera une dernière fois ce vendredi au terme de sa 75e session parlementaire. Puis il tournera le dos à la politique pour devenir président du conseil d'administration de La Poste. Christian Levra, 51 ans, président du Parti socialiste suisse durant 12 ans, ceci jusqu'en 2020. Il est une bête politique. Il siège à Berne depuis 2003, 9 ans au conseil national et près de 10 ans aux États. Il présente toutes les qualités du politicien, certains de ses défauts aussi. Bien que minoritaire en tant que roman et socialiste, il a signé des succès retentissants, autant dans son travail parlementaire qu'en tant que président de parti. Christian Levra a accordé un long entretien à notre correspondant parlementaire Serge Jubin dans l'antichambre du Conseil des États, qui lui a demandé quelle émotion il ressentira lorsqu'il franchira pour la dernière fois la porte du Palais fédéral.
Forcément une certaine émotion, peut-être un peu de nostalgie. Je suis là depuis 19 ans et je dois dire que je ne me souviens pas être venu ici avec un sentiment négatif. J'ai adoré chaque jour de ces 19 dernières années, mais d'un autre côté, je suis assez serein avec la décision que j'ai prise. Je pense qu'il y a un temps pour tout. Après 19 ans sous la coupole, il est temps de faire autre chose. Et puis, il est raisonnable aussi pour la relève, en fait, de laisser place à d'autres pour défendre les valeurs auxquelles je crois et mon canton.
On avait cette sensation que vous étiez éternel. que l'éternité avec vous en politique, ça pouvait exister. Est-ce que vous craignez à l'inverse de disparaître rapidement ?
Pour être tout à fait honnête, j'ai tendance à l'espérer, même si je suis conscient que mes nouvelles fonctions vont imposer malgré tout une certaine exposition publique. Ça n'a jamais été mon moteur en politique. Le fait d'être exposé, d'être connu, d'être visible, j'ai essayé au contraire de limiter le nombre de mes apparitions au maximum, en privilégiant l'efficacité aux effets de manche.
Vous avez été élu par les médias alémaniques parlementaire le plus influent. Est-ce que c'est ça la principale reconnaissance que vous retenez de ces mandats à Berne ?
Oh, c'est pas le classement ou le ranking des médias, c'est l'opinion de mes collègues. Je dois avouer que je me suis toujours engagé entièrement dans le débat politique. Ça veut dire que quand je défends une position, je la défends avec un certain élan, un certain acharnement, diront mes adversaires. Je conçois la politique comme ça, comme l'affrontement des idées exprimées clairement. Je suis assez touché, en fait, de voir cette forme de respect que traduit ce ranking, cette forme de respect de la part de mes collègues, parce que au fil des ans, j'ai forcément été amené à marcher sur les pieds de l'un ou l'autre à plusieurs reprises.
La recette pour être le plus influent, il faut quoi ? Il faut avoir du charisme ? Il faut avoir du cynisme, il faut être un bon dealer, il faut être un maître en jeu d'échecs.
D'abord, il faut être sérieux. C'est-à-dire, il faut connaître ses dossiers. Il faut ensuite se fixer des objectifs qui soient ambitieux mais réalistes. Puis après, c'est ce qu'on appelle en allemand le Handwerk, le travail concret, la technique parlementaire qui va en fait du deal au rapport de force, qui va d'une conversation au coin d'une table à une séance officielle de commission dans laquelle vous devez argumenter de manière plus formelle, qui va de la colère sainte à l'éclat de rire.
Vous présidez encore jusqu'à à votre départ, qui coïncide, cette puissante et très alémanique commission de l'économie, qu'on dit aussi très très proche ou très influencée par Économie Suisse. Est-ce que là, vous avez un peu pactisé avec le diable ?
Non, j'ai fait mon travail. Bon, je fais mon travail de roman. Depuis 2012, en fait, j'ai la plupart du temps été seul roman dans cette commission pour représenter l'ensemble de la Suisse romande, notamment la région lémanique, qui est le deuxième pôle économique du pays. Souvent, assez absent en réalité de ces débats économiques et fiscaux à Berne. Et puis, d'un autre côté, pour défendre la gauche, qui est aussi minoritaire dans cette commission. Nous avons au final obtenu des résultats intéressants, mais pour l'essentiel, en nous appuyant sur notre force référendaire. Le poids de la gauche dans la commission de l'économie, et en général sur ces questions, vient de notre victoire sur la RIE3, notre victoire sur les déductions fiscales pour enfants. Mais je dois dire que la droite aujourd'hui semble peiner à tirer les leçons de ses échecs passés dans le domaine. Peut-être faut-il qu'ils perdent encore une fois ou l'autre, par exemple sur le droit de timbre.
Et on continue avec cette interview fleuve de Christian Levrat. Christian Levrat qui passera donc du Palais fédéral au Wankdorf, dans la banlieue bernoise, où il présidera à la Poste. En passant dans le camp des dirigeants, patrons, pactise-t-il avec le monde des nantis ? On écoute sa réponse.
Non, c'est s'engager dans une entreprise qui est essentielle pour la Suisse. La Poste, c'est une partie de la Suisse. D'ailleurs, chaque Suisse, chaque Suissesse peut vous dire ce qu'il faudrait faire de la Poste demain. Un peu comme l'équipe de foot, on a 8 millions d'entraîneurs. Ce qui est fascinant, en fait, c'est que d'un côté, la Poste est le navire amiral du service public, mais de l'autre, c'est une entreprise qui doit être gérée comme une entreprise normale, qui doit produire des bénéfices pour pouvoir investir en permanence dans sa mue, dans le renouvellement de ses offres. C'est à l'interface de ces deux mondes que se situe la fonction à laquelle j'ai été désigné par le Conseil fédéral. Et ceux qui veulent faire de la Poste simplement une entreprise privée comme toutes les autres ne voient pas la réalité de manière globale. Et à l'inverse, ceux qui considèrent que le rôle de la Poste est exclusivement le service public et qu'elle n'a pas à se confronter aux logiques des marchés ne voient pas la réalité telle qu'elle est non plus. On est dans une situation d'équilibre que je trouve personnellement assez passionnante.
Vous comprenez ceux qui peuvent vous reprocher d'accéder finalement à ce patronat, que vous aviez peut-être un peu perdu le contact avec la rue ?
Non, ça je crois pas. Ce qui est vrai, c'est qu'on a beaucoup travaillé au Parlement. On a moins eu besoin de recourir au référendum. Et je pense que les deux aspects sont complémentaires. Moi, je suis très heureux du travail de mes successeurs qui poursuivent une ligne qui est assez proche de celle qu'on défendait à l'époque, avec à la fois le développement d'un mouvement progressiste en Suisse et puis un travail parlementaire solide dans lequel on travaille de manière concentrée.
Quand vous voyez Alain Berset, hyper médiatisé, c'est un peu le patron du Conseil fédéral, vous êtes un peu jaloux ?
Admiratif. C'est un travail immense que ce qu'il doit faire depuis maintenant un peu plus de 2 ans, dans des conditions extraordinairement difficiles, en prenant des coups, et en évitant systématiquement d'entrer dans des polémiques inutiles. Je crois qu'effectivement, c'est l'attitude d'un leader tel qu'on serait heureux.
Vous dites que ça aurait pu être vous ?
Non, j'ai fait un choix assez clair, je l'ai fait en 2007. Quand j'ai accepté de prendre la présidence du Parti Socialiste, il était clair pour moi à ce moment-là que je ne serais pas candidat au Conseil fédéral, que je n'allais pas arrondir les angles, que mon travail comme président de parti était au contraire déguisé, en fait, le profil du parti, peut-être ici ou là, de provoquer ou de bousculer. Et cet engagement-là, en fait, exclut une candidature au Conseil fédéral. Donc je l'ai fait en parfaite connaissance de choix en 2007, et j'ai passé 12 années fantastiques comme président du Parti Socialiste.
Le vrai en politique, ça pourrait être votre fille, bientôt, peut-être, votre beau-frère aussi qui devrait entrer au Conseil national si Valérie Pillère-Carrère elle accède au Conseil d'État fribourgeois, votre ombre, votre fantôme, il sera toujours par là ?
Ah non, je crois pas. S'agissant des uns et des autres, ils ont une forte personnalité et qu'ils se traceront un chemin sans mon aide ni mon ombre. Ma fille, ou c'est vrai aussi pour Pierre Moron, partage avec moi une approche de la politique qui veut qu'on le fasse par passion, par plaisir et pas pour obtenir un statut. Il ne s'agit pas d'être quelqu'un, il ne s'agit pas d'être reconnu, il ne s'agit pas d'être considéré comme monsieur le conseiller, mais il s'agit de réaliser des objectifs, de mettre en œuvre des valeurs, de faire progresser une vision de la Suisse. Et c'est ce combat-là pour les idées qui mérite qu'on fasse de la politique, pas tellement le statut qui est parfois associé à votre fonction.
Un entretien réalisé avec Christian Levrat à Berne par notre correspondant Serge Jubin. Au semestre d'automne 2021, 2334 étudiants se sont immatriculés auprès de la formation universitaire à distance, unidistance, que ce soit en bachelor, master ou en formation continue. Avec 195 personnes de plus qu'un an plus tôt, il s'agit d'un nouveau record pour l'Institut universitaire. Cette année, plus de 300 étudiants d'unidistance ont en outre reçu leur diplôme universitaire, indique aujourd'hui l'Institut dans un communiqué. Jamais encore, les nouveaux diplômés n'avaient été aussi nombreux.
Il s'agit peut-être d'une avancée dans la recherche d'un traitement contre la maladie d'Alzheimer.
Celle-ci piétine depuis une vingtaine d'années. Un projet de médicament sur une piste encore peu explorée vient d'enregistrer des résultats intéressants, même s'il est bien trop tôt pour s'enthousiasmer. La start-up AC Immune et le groupe pharmaceutique Roche ont développé un anticorps de synthèse qui devrait détruire un des facteurs de la maladie présent dans les cellules. Après une année de ce traitement, il semblerait que les capacités cognitives des malades déclinaient bien plus lentement qu'à l'accoutumée. Ces tests ont été effectués sur un petit échantillon de personnes. Ils devraient s'éprouver à plus large échelle pour aller de l'avant. À l'étranger, en Russie, un étudiant a tué 8 personnes dans une fusillade à l'université de Perm, dans l'est du pays. Le tireur a été blessé, puis arrêté, a indiqué le comité d'enquête du pays. Les incidents armés de ce type se sont multipliés en Russie ces dernières années, entraînant un durcissement de la législation sur le port d'armes.
Et toujours en Russie, le parti de Vladimir Poutine semble se diriger vers une majorité claire au Parlement.
Les premiers résultats donnent à la formation au pouvoir un score de 46,11% des voix. Les législatives ont été marquées par la répression et l'exclusion de presse de presque toute opposition anti-Kremlin. Une éruption volcanique a eu lieu hier sur l'île espagnole de La Palma, dans l'archipel touristique des Canaries. Cela ne s'était plus produit depuis 50 ans. Selon une correspondante de l'AFP sur place, de grandes colonnes de fumée, de cendres ainsi que d'écoulées de lave s'échappaient de plusieurs points du volcan Cumbre Vieja. Ce dernier avait été placé sous haute surveillance depuis une semaine en raison d'une intense activité sismique. Suite à cette éruption, les autorités de l'île ont décidé d'évacuer environ 5000 personnes.
Une pluie de récompenses pour The Crown et Netflix aux Emmy Awards.
Ils ont remporté le prix de la meilleure série dramatique. Mais ce n'est pas tout, puisque le feuilleton qui retrace de manière romancée la vie de la famille royale britannique a aussi raflé les Emmy du meilleur acteur et de la meilleure actrice. Olivia Colman et Josh O'Connor ont été récompensés pour leur interprétation de la reine Elizabeth et du prince Charles. La quatrième saison s'est aussi adjugée les Emmys du scénario, de la réalisation et des deux seconds rôles, avec Gillian Anderson pour son rôle de Margaret Thatcher et Tobias Menzies qui incarne le prince Philippe. Autre production Netflix, Le jeu de la dame, qui met en scène une jeune prodige des échecs tourmentés, a remporté le prix de la meilleure série limitée. le sport. En VTT, la dernière course de la saison de la Coupe du Monde à Showshoes, naguère sourit aux Suisses. Nino Schurter, à la lutte pour la gagne, a été mis hors jeu par une crevaison à la roue avant. Quant au tout frais vainqueur de la Coupe du Monde, Mathias Flückiger, il a dû se contenter de la 15e place. Sa 11e tentative depuis sa dernière victoire n'a donc pas marché. Chez les dames, Sina Frey a une nouvelle fois manqué de peu son premier podium en Coupe du Monde de cross-country. La Zurichoise a pris la 4e place derrière la championne du monde britannique Evie Richards, l'Australienne Rebecca McConnell et la Néerlandaise Anne Tauber.
En course à pied, la 50e édition du Trail des Dents du Midi a réuni plus de 1000 participants ce week-end.
Et pour ce jubilé, les organisateurs ont pu compter sur une belle affluence samedi à Champéry. Sur le parcours principal de 57 km et 3700 mètres de dénivelé, la victoire est revenue à un Néerlandais et à une Châteloise. Côté masculin, Hoob Van Noorden a bouclé le tour des Dents du Midi en 6h18. Il a été imité chez les dames par Fania Velle, qui a triomphé en 7h37. Mais cette édition anniversaire était aussi l'occasion de faire un clin d'œil à toute l'histoire qui entoure cette épreuve lancée en 1963. Le Valaisan Bastien Quinaudeau, deuxième samedi, n'a ainsi pas manqué d'avoir une pensée pour ses prédécesseurs. Le coureur de Reed était au micro de Julien Traxel.
Je trouve ça totalement fou et j'ai écouté, ils ont passé à la radio aussi. Il y a le directeur de la course qui avait été faire une interview d'une heure où il racontait un peu comment ça se passait à l'époque. Et c'est fou. Et ils ont refait ça d'ailleurs comme en 63 avec les vieux habits et à partir de jeudi et vendredi, ils ont fait ça, je crois, à un certain groupe. Et ouais, je trouve ça impressionnant qu'ils aient commencé à faire ça à cette époque.
On arrive à y penser en plein effort.
J'y ai pas trop pensé pendant l'effort, mais je trouve vraiment cool que c'est commencé autant tôt et que ça continue et qu'il y ait des gens motivés, des bénévoles qui sont fabuleux. C'est vraiment une course fantastique.
Et à noter que dans les rangs chablaisiens, Magali Di Marco, 4e, et Jean-Philippe Tchoumi, 5e, ont dû se contenter des places d'honneur sur ce 50e trail des Dents du Midi.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch.
La météo avec François Nicollier, agencement de cuisine, dressing et menuiserie sur mesure depuis plus de 40 ans à Aigle et au Diableret. fnicollier.ch.
Le ciel sera souvent nuageux avec quelques averses éparses en plaine, plus fréquentes sur les sommets et principalement bon pour cet après-midi, avec une limite des chutes de neige qui va remonter vers 2400 mètres d'altitude. Il va faire au maximum 16 degrés en plaine, 11 à 1000 mètres et 8 à 2000 mètres. Pour demain, quelques bandes de nuages bas le matin en plaine, surtout en direction de la Riviera, sinon le temps sera assez ensoleillé. Il va faire de 9 à 18 degrés en plaine, 6 à 16 à 1000 mètres et de 4 à 9 à 2000 mètres. La météo à 6 jours, radiochablais.ch.